Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à minuit 30, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 4, Daniel Riolo est là, jusqu'à minuit 30, on est là ensuite, ce sera les nuits du Casar enchaîné comme tous les soirs, bien sûr. Daniel Emmanoussier est de retour. Polo Breitner nous rejoint, salut Polo.
Bonsoir Gilbert, bonsoir tout le monde.
Et ce soir, messieurs, nous allons parler Portugal. Eh oui, parce qu'il y a une actu chaude. L'entraîneur de Benfica s'est fait virer hier soir après la défaite face à Carabag. Mourinho est en approche. On va en parler dans quelques minutes avec Gary de Jesus, qui est là, qui est au Portugal. Salut Gary.
Bonne nuit à tous, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous. Daniele, tu étais avec nous tout à l'heure pour parler de l'Atalanta. Un mot de l'Inter qui a gagné face à l'Ajax. Alors ça intéresse les Français parce que l'Ajax est le prochain adversaire de Marseille. Et là, on a vu un bon Inter avec un très bon Marcus Thuram.
Oui, doublé de la tête. Lui, il mettait pas beaucoup de bout de la tête. Et ben, l'Inter, elle a répondu. En fait, c'était déjà un match un peu. C'était une réponse à un moment de crise parce que l'Inter, elle a perdu contre la Juventus. Elle avait perdu aussi contre Udinese. Donc, deux matchs sur les premières trois du championnat. Kivu, il n'est pas très expert, il est déjà un peu mis en question. Et c'est pour ça que là, quand il a fait l'interview à la fin du match, il a cité Mourinho, justement. On parlait de Mourinho qui revient peut-être sur les bancs de Benfica. Et il a dit, moi, je suis pas bête. Parce qu'ils lui ont demandé s'il voulait toujours reprendre la tactique d'Inzaghi, les 3-5-2. Mmh. Et lui, il a dit, ben moi, je suis pas bête, je vais pas changer une équipe qui marchait déjà bien. Et bon, moi, je suis pas très convaincu que de sa réponse. Je suis pas très convaincu par l'Inter. Ce soir, elle a bien joué. Elle était plus intense, on va dire, de l'Ajax. Ils ont mis une belle pression. Il y a eu un très bon match d'un jeune exordiant en Champions League, Pio Esposito, qui a joué à la place de Lautaro Martinez, qui est blessé au dos. Et il n'était pas au top, on va dire. Mais après ça, c'est toujours la même Inter. Elle a eu du mal à créer des occasions. Et effectivement, elle a gagné le match avec deux bouts de tête de Thuram. Donc, il n'y a pas eu des étincelles non plus.
Bon, on va dire que l'Inter démarre sa saison doucement, quoi. Voilà, on peut le dire comme ça.
Oui, ils ont en train un peu de sortir de... Comment on les appelle, les sables dans lesquels tout est...
Les sables mouvants.
Les sables mouvants, voilà. Ils lui ont jeté une corde et Kivu, il est en train de sortir. Il faut gagner des matchs. Lui, il a dit, il faut qu'il revienne l'aspect mental. C'est une équipe aussi, vous savez, il y a eu beaucoup de problèmes dans les vestiaires. Le Pavard qui est parti, ça montre un peu ça. Il y a eu le Lautaro qui, après la sortie en Coupe du Monde pour club, il s'en est pris à ses coéquipiers. Çalhanoğlu qui voulait aller en Turquie, il n'y est pas allé finalement. Donc c'est une équipe qui doit un peu se retrouver, qui n'a pas beaucoup de nouvelles choses à trouver dans elle-même ou dans les joueurs qui sont arrivés, parce que c'est des jeunes, Boni, Pio Esposito, Sucic. Il y a juste Akanji qui est expert et il a un peu de mal pour le moment à intégrer les 11.
En fait, ils sont encore traumatisés de leur fin de saison dernière où ils ont tout perdu.
Parce qu'ils pensaient que beaucoup de choses allaient changer, comme il l'a dit Daniele, et finalement peu de choses ont changé. Maintenant, tu sais, si tu regardes, bon, ce soir ils gagnent, samedi, franchement, c'était un match un peu surréaliste. S'il le gagne, le match, de toute façon, il mérite de le gagner. Il joue mieux. Mais le fait qu'il se fasse retourner comme ça sur la fin, c'est peut-être aussi qu'ils ont perdu en solidité ou peut-être tout simplement en confiance pour gérer une fin de match. Donc oui, je comprends qu'il y ait une forme d'inconnu autour de cette équipe. Est-ce que cette équipe, elle a encore faim? Est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de fin de cycle ou de renouvellement de joueurs nécessaire? T'as fait deux finales de Ligue des Champions en trois saisons. Je pense à peu près tirer le max de ce que tu pouvais tirer de cette équipe-là. Est-ce qu'il fallait pas du sang neuf, du sang frais dans cette équipe? Très probablement. Il y a des joueurs qui me semblent moins forts qu'ils n'ont été. Si tu prends un mec comme Barella, qui a été un leader, je continue de beaucoup aimer ce joueur, mais j'ai l'impression qu'il est moins fort que ce qu'il a été. Lautaro, probablement moins fort que ce qu'il a été. Ils sont plus sur une pente descendante qu'ascendante. En revanche, il y a un joueur qui tient l'équipe en ce moment, et là, soit je critiquerai plus jamais Marcus Thuram.
Oui, c'est sûr.
Parce que Marcus Thuram, souvent, c'est un peu une cible facile. Parce qu'avec l'équipe de France, il est tellement mal utilisé qu'il est sous-coté moi-même à chaque fois. Parce que bon, ok, il fait pas partie de mon prototype de joueur qui me fait kiffer. Mais néanmoins, je trouve que son état d'esprit est extraordinaire. Ce qu'il fait sur le terrain, ce qu'il propose, sa détermination. Et je trouve qu'il progresse dans tous les domaines. Vraiment, je critiquerai plus Marcus Thuram. Je trouve que on a trop une image moyenne de lui à cause de ce qu'il propose en équipe de France dans une position qui n'est pas la sienne. À l'Inter, longtemps c'était Lautaro et Marcus Thuram. Là, en ce moment, c'est Marcus Thuram et les autres, carrément, quoi.
Oui, même à la fin de l'année dernière, c'est lui qui a pris sur le dos l'Inter, parce que Lautaro, il a eu déjà une baisse de continuité. Mais c'est un joueur que voilà, il s'est transformé à l'Inter par rapport à quand il était en Allemagne. Et il a montré un côté aussi créatif. Mais je pense que son problème, c'est qu'il faut qu'il joue avec un autre attaquant à côté. Ce soir aussi, il a bien joué avec à côté Pio Esposito. Ils se sont bien passé la balle, se sont partagé les choses à faire, parce que c'est un joueur aussi un peu qui bouge un peu partout. Il va chercher la balle selon les moments où il pense que c'est mieux, mais c'est pas un vrai numéro 9, c'est pas non plus un joueur qui peut jouer sur les côtés, à mon avis. Mais oui, c'est vrai qu'il a pris l'Inter sur ses épaules. La question est partagée, s'il fallait changer plus de ce qu'ils ont changé, si c'est une équipe qui a encore faim. Lautaro Martinez, bien sûr, il a dit plusieurs fois que oui, ils ont encore faim, ils veulent même gagner ce qu'ils n'ont pas gagné, c'est-à-dire la Champions League, ou retourner à gagner le championnat, chose qui n'est pas simple, parce que Naples, il est très très bien parti et il a très bien bâti son équipe. Mais il y en a d'autres qui, c'est vrai, ils ont l'air un peu plus fatigués, et on pense que peut-être ça serait mieux de changer quelque chose. Mais là, Kivu, il a répondu ce soir: moi, je vais rien changer, je vais droit sur ma route, et parce que c'est une équipe qu'elle est très forte comme ça, je ne dois pas faire grand chose. Ben, on va voir les résultats.
S'il arrive à les rebooster, alors redonner la dalle et tout, il y a beaucoup de bons joueurs dans cette équipe.
Pour conclure, Daniel, l'Ajax, t'en as pensé quoi, vu qu'ils vont jouer contre Marseille au prochain match?
C'est une équipe assez fragile. On l'a vu quand l'Inter a un peu haussé les niveaux de l'athlétisme. Et c'est aussi une équipe qui fait beaucoup de fautes techniques dans des moments un peu... C'est une équipe un peu fragile, voilà, dans tous les côtés. Athlétique, technique. Mais si elle joue en vitesse avec des espaces, elle peut faire du mal.
Bon, à voir pour l'OM, ce sera dans 15 jours.
L'OM Ajax, tu le retournes dans tous les sens, quoi. Si tu bats pas l'Ajax, c'est pas la fin, quoi, mais c'est une énorme claque dans la tronche. Tu dois gagner contre l'Ajax.
Exactement. Merci Daniele, à très vite.
À vous, bonsoir.
Polo, le Bayern a battu Chelsea 3.
Polo, je l'attendais. Polo, on va s'expliquer.
Avec un très bon Harry Kane.
Très bon Harry Kane, évidemment. Énorme ambiance à l'Allianz Arena, comme si ce match était une véritable délivrance par rapport aux thématiques qu'il y a en Allemagne en ce moment, et notamment le fait, est-ce que le Bayern est un club déclassé en Europe? Donc évidemment, ça, c'est tous ces débats-là en Allemagne sont liés à la saison dernière, au football allemand qui a été plus que médiocre, et au Bayern qui n'a pas fait de grosses prestations en Europe, et plus un mercato qui, on estime, n'a pas été suffisant. Mais ce soir, en fait, la victoire, elle était souveraine sur Chelsea. Il y a deux défauts, j'ai envie de dire. Le problème, c'est l'efficacité en seconde mi-temps, en fait. Chelsea, notamment dans le premier quart d'heure de la seconde mi-temps, aurait dû exploser complètement. Et puis, le but quand même de Palmer pour le 2-1, on a quand même le sentiment que ce but, on l'a vu 50 fois, et notamment contre l'Inter l'année dernière. C'est-à-dire que dès que le Bayern se prend un contre, il y a un but qui arrive. Mmh. Donc, encore une fois, j'ai été un petit peu surpris par une ambiance extraordinaire à l'Allianz Arena, comme si on était en quart ou en demi-finale en match aller-retour contre une grosse équipe en face. Et il y a Michael Ballack qui a fait une très intéressante analyse de la situation, et on lui dit... les journalistes disent oui, mais quand même défensivement on sent que c'est toujours fragile. Anfällig, c'est le mot qui revient souvent en Allemagne en ce moment, donc c'est un petit peu fragile défensivement. Il me dit oui, mais quand vous voyez la qualité des joueurs qu'il y a en face, il y a beaucoup d'équipes en Europe défensivement qui sont anfällig, qui sont fragiles défensivement, en fait, parce qu'il y a une telle qualité. Donc le Bayern a remporté souverainement cette rencontre. Si on a vu un grand Bayern, je pense que Chelsea aurait explosé face au Puzzle.
Alors,
donc il y a encore des...
Ouais. Donc c'est beaucoup entendu ces derniers temps. Je pense, je conçois que en Allemagne on se pose la question. Je sais ce qu'est le Bayern en Allemagne, l'idée qu'on se fait du football dans ce pays. Néanmoins, je me demande si t'es pas un peu trop sévère, toi et peut-être les gens en Allemagne en règle générale autour du Bayern, parce que quand je m'amuse à chercher un petit peu quelles sont les équipes et aujourd'hui dans le foot européen, j'ai vraiment l'impression qu'il y a des plein de groupes et des groupes qui sont de plus en plus petits et je cherche le groupe, on va dire, des cadors qui peuvent viser la succession du PSG. Mais moi, le Bayern, je le mets dans ce groupe-là. Alors, l'année dernière, peut-être que ça n'a pas plu, mais un match que tu perds dans des circonstances et au terme d'un scénario un peu, oui, je me souviens de ce quart contre l'Inter. Mais d'abord, l'Inter a le droit d'être fort et a le droit d'être dans une saison qui était pour eux extraordinaire jusqu'à la finale. Ça s'est joué sur la fin. On se souvient du scénario. Et moi, je me demande si cette année ils sont pas même plus forts. Alors après, s'il y a beaucoup de blessés et tout, c'est une autre histoire. Hein. Mais sur l'équipe qui peut être alignée, s'ils sont au complet. Ok, il y a un peu une prise de risque parce que souvent t'as que deux mecs au milieu et donc ça explique peut-être leur fragilité globale défensive. Mais si Gnabry, on retrouve le gars de 2020-2021, tu vois, pas le mec qui se blesse tout le temps et qui est intermittent. Kane, il met toujours des buts. Enfin, t'as quand même des sacrés joueurs dans cette équipe-là. Je les cite pas tous, hein, mais la charnière centrale, ça doit être une des plus solides en Europe. Enfin, il y a des mecs qui manquent et qui vont revenir. Moi, le Bayern, je les écarte pas, quoi. Et si je repense au Mondial des clubs, à la compète qui a servi à rien à part à blesser des joueurs. Alors, ok, Chelsea a battu le PSG en finale, mais dans le jeu, le Bayern, ce qu'ils avaient fait contre le PSG, j'avais trouvé que c'était quand même très intéressant avant de craquer un peu sur la fin. Bon, moi, ce Bayern, j'ai envie d'y croire.
Non, mais il y a plusieurs thématiques. La première, elle est liée au Bayern qui n'a pas, pour le moment, pas réussi sa transition qui aurait dû commencer en 2023. En fait, je prends un exemple, Bad Stuber, ancien joueur du Bayern, évidemment, qui dit « Je ne sais pas quel est le plan du Bayern à moyen terme. » En fait, on a l'impression qu'ils évoluent en fonction d'un marché qu'ils ne dominent plus complètement. Rappelons qu'ils voulaient Florian Wirtz est en première ligue. Ce Voltemat faisait rigoler beaucoup de personnes en Allemagne, le transfert à 60 millions. Il est parti en première ligue aussi pour beaucoup plus cher. Et donc, il y a des réactions par rapport à ça. La question de du déclassement du Bayern en Europe, ça fait 40 ans qu'on l'entend du côté bavarois et notamment de Lyonnaise parce que c'est sa hantise, mais on a le droit aussi de se poser la question pourquoi la presse allemande, notamment liée à la saison dernière qui n'a pas été bonne, hein, 4 défaites tout de même en Ligue des Champions, c'était pas le standing qu'on avait vu dernièrement, et donc on se pose la question de savoir si ce Bayern il est bon ou pas. Le problème c'est que il y a sur le terrain des joueurs qu'on critiquait il y a un an, il y a deux ans, qui était quasiment mort. Je pense à Goretzka qui devait quitter le club, qui finalement est là. Je pense à Gnabry, tu l'as cité. C'est quand même la bonne nouvelle du Bayern version 2025-2026. Il a plus ses blessures. Il est la bonne surprise de cette saison. Évidemment, Musiala et Davis sont absents. Ça va apporter un peu de dans l'effectif, un peu de densité, ce qui va être intéressant. Mais est-ce que le Bayern, parce que la blague qui circule en Bayern, oui, le Bayern, il va être prêt comme d'habitude en début de saison. Mais quand on va être en quart de finale, ils vont sauter comme d'habitude. Mais c'est un peu ça ce que dit la presse allemande.
Mais là, ils sont plus forts. Diaz, Olise qui est en train de grandir, oui, à chaque fois. Oui. Diaz, la greffe a tout de suite pris.
Tout à fait.
Kane, il plante des buts si jamais il est pas. Il a une baisse de forme ou quoi, ou même en cours de match, il peut faire rentrer.
D'accord, mais si on s'arrête à fin septembre pour dire quelle est l'équipe qui fonctionne bien, Liverpool aurait été champion d'Europe l'année dernière. Donc, bon, moi, ça m'intéresse
décembre,
pas.
Si tu vas par là.
Oui, c'est. Et la deuxième chose.
Non, moi, je parlais vraiment de force proposée.
Il y a les alternatives. C'est-à-dire que le problème, ce qu'on n'a pas aimé l'année dernière au Bayern, et c'est pour ça que Vincent Kompany a été un peu dans la ligne de mire, c'est que le Bayern a une puissance, on l'a vu ce soir face à Chelsea, mais quand ça ne marche pas, il n'y a pas de plan B. Et donc le fait que le Bayern veut toujours la possession, veut toujours être dans
la. C'est quoi le plan B du Barça ? C'est quoi le plan B du PSG aujourd'hui ? C'est quoi le plan B de Liverpool?
Enfin, le problème, c'est que le Bayern se prend un nombre de buts.
On parle Portugal. Vas-y, Polo.
Oui, le problème, c'est que le Bayern se prend un nombre de buts incalculable en contre, et ça ne passe pas. Le but de Palmer, ce n'est pas logique. Mais encore une fois, moi, je suis très content de ce qu'a proposé ce soir. Mais encore une fois, quand je vois l'ambiance qu'il y avait à l'Allianz Arena et ce que commencent à dire les médias allemands comme quoi le Bayern est de retour en Europe, c'est donc comme s'il y avait une forme de délivrance dans cette rencontre qui était attendue.
Ça, j'entends ce que tu dis là-dessus. Oui.
Voilà, c'est ça.
Polo, merci beaucoup.
Merci.
Bonne soirée. À demain. Dans un instant, Gary, on revient et tu nous raconteras ce qui se passe à Benfica depuis hier soir. C'est assez dingue parce que ce but de Karabag là qui fait perdre Benfica, il a eu des conséquences terribles. Le point juste dans quelques instants avec Mourinho qui est dans les tuyaux.
RMC jusqu'à minuit 30, l'after foot.
Gilbert Bribois.
Il est minuit 20, Daniel Riolo est là, Gary de Jesus avec nous, installé au Portugal et qui suit le foot portugais de près, bien sûr. Gary, oui, Benfica a réussi. Alors, hier soir, on était très surpris parce que c'est super rare que Benfica perde comme ça contre des petites équipes chez lui. Donc là, c'est tremblement de terre, quoi.
Exactement, c'est exactement ce que tu viens de dire, c'est un tremblement de terre depuis 24 heures. Le 3-2, surtout que à la maison, Benfica a gagné 2-0. Et a été remonté et a finalement perdu 3-2 contre Karabag. Ce n'est pas passé du tout. C'est extrêmement rare, comme vous le savez, Ostia de Dolouche, que ça arrive. Et comme tu l'as dit, c'est un tremblement de terre à tel point qu'à 1h du matin, Rui Costa, le président du club, est venu en conférence de presse pour annoncer le départ de Bruno Lage.
Donc il l'a viré, quoi.
Exactement. Exactement. Et c'est, ça a été une décision assez rapide. Et sa décision a été aussi rapide de... dans cette soirée, qu'on se demande aujourd'hui si l'accord de Mourinho a été fait justement entre la fin du match et ce temps où il est arrivé à 1h du matin avec cette décision de prise.
Bon, ça j'adore, parce que les décisions à chaud comme ça, après le match, en mode je monte les tours, l'autre je vais le virer, il est nul, on a perdu, en général c'est toujours des trucs un peu bizarres. Mais il y a un contexte électoral qu'il faut que tu nous expliques, un peu sous-jacent.
Exactement, il y a un contexte particulier qui fait que c'est un coup de poker pour Rui Costa, c'est un peu le coup de la dernière chance. Il est très critiqué, Rui Costa. Il faut savoir qu'un seul titre en 4 ans de présidence, c'est pas du tout possible du côté de Benfica. Il y a eu l'émergence, le retour du Sporting qui a fait beaucoup de mal à Benfica, et le fait qu'il n'y ait qu'un seul titre, ça a beaucoup de mal à passer, surtout qu'il y a des coachs qui ont coûté beaucoup d'argent avec Roger Schmidt, il y a beaucoup de transferts qui ont coûté beaucoup d'argent du côté de Benfica, à l'échelle de Benfica, bien sûr. Et donc, les élections qui ont lieu fin octobre pèsent beaucoup sur cette arrivée subite de Mourinho, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pression sur Rui Costa, et on le voit même sortant.
En fait, Rui Costa, il s'est dit, ce résultat, ça peut me coûter mon siège, en fait. C'est ça, si je résume. Donc, il faut que j'agisse. Bon.
Même sans ce résultat, c'était très difficile pour lui d'être réélu dans les sondages. Vous savez comment ça se passe dans les élections, il y a beaucoup de promesses. Il y a notamment un des candidats qui promet de faire venir Bernardo Silva, qui est adoré par les supporters de Benfica, qui promet de le faire venir. Il y a plein de choses comme ça. Et lui, avec Mourinho, il met un peu de problèmes un peu dans les campagnes des autres candidats, parce qu'ils savent plus quoi trop dire quand on dit alors qu'est-ce que vous faites avec Mourinho, parce que là c'est pas encore officiel mais c'est déjà acté pour deux saisons, et ils savent pas trop quoi faire avec cette arrivée de Mourinho, s'ils doivent appuyer son arrivée, mettre en valeur le choix de Rui Costa, ou au contraire dire qu'ils vont le virer. Il y en a qu'un seul qui se risque à le faire, et c'est pas celui qui risque d'être élu.
Alors Mourinho, il a quoi comme image aujourd'hui au Portugal? Parce que
déjà, c'est la première fois qu'il va entraîner. Ah non, c'est une bêtise, je suis bête.
Non, Porto, il y a 25 ans, il a entraîné.
Ouais, Porto, quand il gagne la Coupe d'Europe.
Juste champion d'Europe.
Ouais, voilà. Et il va encore la Coupe de l'UEFA aussi.
Non, j'avais en tête.
Et à Benfica, il avait déjà entraîné Benfica aussi. Mm. C'est une histoire super sympa aussi. Il est resté que 3 mois à Benfica parce qu'il est arrivé exactement dans le même contexte il y a 25 ans. Il est venu dans un contexte électoral. Et en fait, il n'était pas du tout sa première expérience de coach en tant que premier en poste de coach, parce qu'il était assistant. Il était assistant au Barça. Et il arrive en tant que numéro 1 dans un contexte électoral où le président qui a gagné avait promis un autre entraîneur. Et lui, ça s'est bien passé sur la fin. Il a voulu avoir une extension du contrat qui a été refusée. Il est parti à Leiria, puis ensuite à Porto, et on connaît la suite.
Le Porto, Benfica et tout ça. Pose pas de problème, il n'était pas estampillé dragon et ça va pas poser de soucis.
Il est estampillé Porto à fond depuis qu'il a gagné tout ça et qu'il est rentré dans l'histoire avec le FC Porto. Encore le week-end dernier, il était au Stadio do Dragão et il a été salué par toute la foule, etc. Mais au Portugal, ce côté trahison qu'on peut voir, c'est un peu comme l'Italie, je dirais, où il y en a certains qui ont la carte et qui font plusieurs clubs sans que ce soit vu comme une trahison. Mmh. C'était pas le cas de Otamendi ou de Maxi Pereira quand ils ont changé, justement, parce que c'était des capitaines, etc. Ça avait fait un scandale. Mourinho, on verra quand ce sera officialisé, mais en tout cas, c'est pas du tout ce qui est abordé dans les médias portugais en ce moment. C'est plutôt l'arrivée et l'aspect qu'est-ce que ça va changer dans les élections. En plus, il a commencé à Benfica. Il aurait pu aller au Sporting. Donc vraiment, ce côté-là, il y a des entraîneurs qui ont fait les trois, comme Fernando Santos, comme Josualdo Ferreira. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là, en tout cas pour l'instant.
On n'a pas l'image d'un mec cramé au Portugal, c'est-à-dire le type qui était un peu en fin de course, qui à chaque fois faisait les esclandres partout où il passait.
Qui termine en Turquie, quoi. Quand tu termines en Turquie, derrière, il n'y a pas de retour.
Ben ça, c'est, bien sûr, il y a de tout. Il y a de tout, mais la première chose, c'est le respect. Et il n'y a personne qui va se risquer à dire, ici au Portugal, que c'est un mauvais choix. Il y en a qui vont émettre quelques doutes, mais la plupart vont dire qu'il a gagné des titres quasiment partout où il a été. Il n'a seulement pas gagné de titres à Fenerbahçe et à Tottenham, sinon il a gagné partout. Après, il y en a qui vont dire qu'il n'a pas gagné de championnat depuis 13 ans, je crois. Il n'a pas été champion avec un club depuis 13 ans. Il y en a d'autres qui le défendent, qui disent que c'est parce qu'il n'était pas dans des clubs qui pouvaient lutter pour ça. Mais c'est il y a tout. Il n'y a pas du tout de choses tranchées comme ça où il est cramé, il devrait pas venir, etc. Et ce qui arrive le plus souvent, c'est le respect pour l'entraîneur, qui est une légende au Portugal. Donc c'est un peu le retour du roi. On a suivi son vol en direct parce qu'il a fait Barcelone-Lisbonne aujourd'hui. Son vol était suivi en direct sur les chaînes d'info. Il y avait des journalistes. Il était suivi, pas le vol, mais je veux dire le trajet en direct.
Tracker.
Voilà, exactement. C'était diffusé sur les chaînes d'info. Il y a 6 chaînes d'info là, elles sont tous en train de parler de ça. Il est arrivé, il y avait des journalistes.
Il y a 6 chaînes d'info au Portugal.
Ouais, 6 chaînes d'info, effectivement, ça fait beaucoup. Il y avait une écharpe autour du cou, ils lui ont mis une écharpe de Benfica autour du cou, alors qu'il était encore en négociation, parce qu'au début c'était pour une saison. Au final, il va réussir à en avoir deux.
Il arrive en position de force, le coco.
Et puis exactement. Et là, ils ont suivi avec des motards jusqu'à chez lui, en essayant de l'interviewer un petit peu à la Fleugotro pour essayer de l'interviewer dans la voiture sans succès. Mais non, c'est un peu le retour du roi, c'est un vieux serpent de mer, hein, le retour de Mourinho.
En fait, on l'attendait pour la sélection. C'était ça un peu le truc ultime de Mourinho, c'était d'être sélectionneur un jour.
Exactement. Et lui-même, il l'a admis. Il a admis quand il est sorti de l'avion, il a adoré, hein, savait comment il est. Lui, il voit des journalistes, il est très bien vu, il adore ça, il adore cette communication. Et on l'aime beaucoup au Portugal parce que à chaque fois qu'il est devant un micro, il est très très bon. Et le Mourinho un peu amer après défaite, on l'a moins vu au Portugal. On a surtout le Mourinho taquin, celui qui est très attachant au Portugal. Et donc quand il est sorti de l'avion et qu'il a parlé aux journalistes, c'est tout de suite, il a dit la vérité, c'est-à-dire que lui, il se voyait revenir au Portugal, mais plus en tant que sélectionneur, mais que Benfica, on ne peut pas dire non. Un entraîneur ne dit pas non à Benfica, c'est ce qu'il a dit. Donc,
bon. Ouais, ça suffit à plaire à tout le monde.
Et à Porto en particulier.
La dans le sac. C'est la phrase.
Merci Gary, c'était sympa Gary. De t'avoir. Et puis je pense qu'on se retrouvera. Parce qu'il y a deux matchs de Français contre le Sporting dans cette phase de poule de Ligue des Champions.
PSG-Marseille, José Alvalade.
Exactement. Magnifique stade d'ailleurs. Où la France s'est fait éliminer contre la Grèce en 2004.
C'est pas tellement très portugais comme prénom Gary.
Non, c'est vrai. C'est vrai. C'est
les... de Dallas.
Malheureusement, je cherche autre chose, Gary Grant ou des choses comme ça, mais Gary Cooper, mais.
Ah non, parce mais que c'est non, non, c'était Gary, c'est, en fait c'était Gary Boccali.
Mais c'était pas.
Non, c'est les années 90 qui ont fait beaucoup de mal.
C'était plus Gary Cooper peut-être, mais c'est Gary.
Oui, c'est ça.
C'est même pas Gary.
C'est vrai, moi c'est plus Gary Cooper que j'essaie, mais non, c'est les années 90-80 qui ont fait beaucoup de mal, les séries américaines.
Par contre, De Jesus, ça fait portugais, c'est stylé.
Ça, oui, ça, voilà.
Ça, c'est validé, ça.
Ça, c'est validé. Ça, c'est,
oui, exactement. Totalement.
Merci Gary, bonne soirée, à très bientôt.
Bonne soirée à vous.
Salut. Dans un instant, les nuits du Casar enchaîné, ils sont là, bien sûr. Et demain, l'after sera là. Demain, on reviendra sur le match de Liverpool aussi. Hein. On n'a pas eu le temps de l'aborder ce soir. Julien Laurent sera avec nous demain soir. Parce que demain, il y a une dernière soirée, belle soirée de Ligue des Champions dans l'after. Bonne nuit à tous.
RMC jusqu'à minuit 30.
L'After Foot.